Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de cette semaine de C'est bon pour la santé sur Canal M. Mais bien sûr, tout d'abord, au cours de ces 30 prochaines minutes. Le 26 novembre dernier, une étude de chercheurs de l'UDM et du CHUM montrait que les consommateurs de cocaïne et d'amphétamine étaient plus à risque de se suicider, en fait, deux fois plus à risque. Un constat assez inquiétant. Comment prévenir? C'est la question que je poserai en deuxième partie d'émission au docteur Didier Jutras-Assouad, lui qui est médecin psychiatre au département de psychiatrie du CHUM. Mais d'abord, si vous êtes parent d'adolescents ou de préadolescents, vous devez savoir que parler de sexualité, de puberté, de changements hormonaux et d'amour, hein, tout simplement, n'est pas chose aisée avec votre progéniture. Mais si on se met dans la peau de parents d'enfants autistes, ça peut être un défi encore plus grand parce que, de façon générale, les émotions, les codes sociaux sont un petit peu plus difficiles à saisir, à comprendre chez les personnes autistes. Comment on aborde la sexualité avec nos jeunes autistes, et ce, peut-être même jusqu'au début de l'âge adulte? J'en parle dans quelques instants avec Isabelle Hainaut, psychologue, sexologue, clinicienne à la clinique Autisme et Asperger Montréal, également auteur et conférencière. Isabelle Hainaut, bonjour.
Bonjour.
Vous avez développé au cours des années une expertise qui est plutôt unique, qui est connue internationalement. Là, on parle que vos conférences sont traduites en 9 langues différentes. J'imagine que c'est parce qu'il y a un besoin très, très marqué de parler de sexualité aux jeunes autistes.
Ah, tout à fait. Je dois vous dire que depuis environ 15 ans, je me suis vraiment spécialisée au niveau de l'éducation, le counseling, autant pour les parents que pour les adolescents, mais aussi les professionnels qui travaillent avec les adolescents, les jeunes adultes qui sont atteints d'autisme. Et pour moi, je dois vous dire que c'est fascinant de voir à quel point partout, au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde entier, en fait, les gens s'intéressent à cette question du développement sexuel parce que nos jeunes ont vieilli. On a connu les jeunes personnes avec autisme à l'époque quand ils étaient tout petits. On se spécialisait surtout au niveau du diagnostic et du suivi à l'école. Mais comme ces jeunes ont grandi, leurs besoins sont aussi différents et la plupart manifestent donc des comportements sexuels, une certaine curiosité. Et ceux qui sont d'un niveau de fonctionnement plus élevé ont souvent envie aussi d'avoir un copain, une copine, et ils se questionnent vraiment au niveau de la sexualité.
Oui, parce qu'Isabelle, ce qui est important pour vous, c'est de détabouiser un petit peu ce qui est en lien avec les relations interpersonnelles des enfants, des jeunes autistes, parce que, selon vous, oui, peut-être que les contacts sociaux sont plus ardus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'amis ou d'amoureux.
Tout à fait. Un de nos objectifs avec mes collègues de la clinique, c'est vraiment de normaliser le développement sexuel, les besoins de nos jeunes. Et dû à leur profil, leur parcours qui est assez particulier, bien sûr, ça va donner une certaine couleur à leur développement sexuel. Mais c'est bien important en tant que clinicien pour nous d'aider les parents aussi à comprendre le développement sexuel de leurs jeunes et de les outiller pour que ça se vive de façon la plus harmonieuse possible.
Mm-hmm. Leur développement sexuel, est-ce qu'il est différent des autres jeunes?
C'est bien intéressant comme question. C'est souvent ce que les parents et les collègues demandent. En fait, je vous répondrai à deux niveaux. Au niveau physiologique, c'est sûr que le corps se développe de la même façon pour nos jeunes avec autisme que les jeunes qui sont neurotypiques. On utilise le terme neurotypique, mm-hmm. en fait, pour les autres jeunes là, qui ne sont pas atteints d'autisme. Donc, ce développement-là est assez similaire au niveau physiologique, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le développement psychosexuel et aussi, comme je vous expliquais un peu plus tôt, les caractéristiques qui sont liées à l'autisme vont finalement nous permettre de mieux comprendre ce développement particulier. Un peu plus tôt, vous nommiez les habiletés sociales. On a remarqué, bien sûr, dans nos études, mais aussi dans nos observations cliniques, que le développement est souvent lié à plusieurs embûches, c'est-à-dire de comprendre les règles sociales, les conventions. La plupart de nos jeunes font énormément d'erreurs parce qu'ils vont mal décoder. Ils ont ont aussi un profil un peu différent au niveau de la communication, hein, qui a deux volets, la communication verbale et non-verbale. Et selon le type d'autisme, on a aussi des jeunes qui sont non-verbaux. Donc, pour eux, de communiquer simplement, c'est extrêmement difficile, voire même impossible. Mais toute cette communication non-verbale est tellement importante lorsqu'on parle du développement relationnel. Donc, ça aussi, bien sûr, c'est un enjeu qu'on doit considérer. Et aussi, tout le côté affectif et aussi le décodage des émotions chez les autres, mais aussi comment décoder ses propres émotions. Donc, tous ces volets, en fait, sont explorés à travers nos interventions et le programme d'éducation sexuelle qu'on a développé.
Isabelle Hainaut, est-ce que leur développement sexuel pourrait être plus lent qu'un jeune neurotypique?
Bien, je vous dirais que au niveau physiologique, non, mais au niveau psycho-affectif, il peut y avoir ce qu'on appelle des délais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas rare pour nous de travailler avec un jeune qui aurait, par exemple, 18-19 ans, un jeune adulte, mais au niveau de sa maturité, il peut y avoir un écart d'âge de 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est pour ça que même si on est avec un jeune adulte, il peut avoir des comportements ou un développement psychosexuel qui serait peut-être plus comparable à quelqu'un qui aurait 15 ans. Donc, cet écart-là, il faut en tenir compte, bien sûr, dans le matériel, les outils qu'on utilise, mais aussi dans la compréhension des enjeux liés aux relations interpersonnelles. Oui. Mais ça n'empêche pas quand même ces jeunes-là, peu importe leur âge, d'avoir envie d'être avec les autres. Et je pense que ça, c'est un des tabous ou une mauvaise information qui circule, à savoir que les jeunes autistes préfèrent être seuls, isolés. Bien sûr, ils ont besoin de moments, je dirais assez régulièrement dans la journée pour se retrouver, recharger leur batterie, si je peux utiliser ce terme-là. Mais l'isolement social, c'est souvent dû au rejet. Et la plupart des jeunes avec qui on travaille, en fait, sont désespérés pour avoir un ou deux amis ou peut-être un copain, une copine. Mais souvent, ils s'y prennent mal et ils ont eu tellement d'échecs dans le passé qu'ils préfèrent se retirer et attendre que l'autre vienne vers eux par peur, justement, du rejet ou de l'intimidation. Mais pour les questionner, discuter avec eux là, de façon très régulière, la plupart nous disent et nous confirment vraiment qu'ils ont un intérêt.
Oui. À la préadolescence ou à l'adolescence, la peur du rejet, c'est une préoccupation pour tous les adolescents, Isabelle Hainaut. Et les changements hormonaux, la puberté, ça peut créer de l'anxiété chez tous les jeunes. Or, et vous me corrigez si je me trompe, je pense que l'anxiété peut être un petit peu plus marquée chez les jeunes autistes. Donc, j'imagine que la puberté, c'est encore peut-être plus ardu pour eux, une période plus difficile.
Vous avez tout à fait raison. Moi, je vous dirais que la période de la puberté, c'est probablement un des moments qui est le plus complexe et le plus difficile à vivre pour les jeunes autistes pour plusieurs raisons. La première, c'est comme tous les jeunes, c'est un moment de transition qu'ils vivent. Cette transition-là de l'enfance jusqu'à l'âge adulte est assez complexe, autant au niveau du développement physiologique, corporel, mais nos besoins affectifs aussi sont en changement. Et ce qui est difficile pour les jeunes autistes, en fait, c'est tout ce qui est l'inconnu. Ils préfèrent en général ce qui est connu, ce qui est routinier. Et pour eux, d'entrer dans cette phase d'adolescence, de puberté, c'est l'inconnu total. Donc, c'est très difficile, d'où l'importance de vraiment normaliser les étapes de la puberté, autant au plan physiologique qu'au plan psycho-affectif. Donc, nous, on les prépare en leur donnant de l'information, de l'encadrement, du matériel visuel pour qu'ils comprennent bien les étapes, un peu comme si on faisait une ligne du temps. Et c'est sûr qu'on ne peut jamais prévoir exactement à quel moment certains changements vont s'opérer, mais déjà de les outiller, de les informer et d'aider les parents aussi. On les accompagne beaucoup dans ces périodes de transition. En fait, c'est très, très efficace pour diminuer l'anxiété chez nos jeunes, mais aussi pour les aider à mieux vivre ces changements et les aider à prévoir ce qui s'en vient. Donc, je vous dirais que c'est une période de transition qui est assez complexe, d'où l'importance, en fait, de les outiller et de les éduquer.
Je lisais le témoignage d'une maman, d'un jeune ou d'une jeune autiste, je m'en rappelle plus, qui disait que ce qui était le plus difficile ou délicat pour elle, c'était pas tant de parler de sexualité, mais plutôt qu'avec un jeune autiste, il faut aller vraiment en détail parce que la lecture entre les lignes, parfois, ne se fait pas.
Exactement. Donc, bien sûr, de parler de sexualité, c'est un beau concept, mais comment l'enseigner? Et on sait maintenant, de plusieurs recherches et nos observations cliniques, ce qui est important, c'est d'utiliser du matériel visuel, concret, le moins de mots possible, et surtout des repères visuels. Donc, nous, on utilise, par exemple, des bandes dessinées, des fiches. On utilise des vidéos qui ont été développées et adaptées pour la condition autiste. Et c'est ce qui est important, en fait, c'est d'expliquer ces changements-là, de les préparer, mais avec du contenu visuel. Parce qu'autrement, ça va être extrêmement difficile de décoder les sous-entendus, tous les petits détails, les nuances. Et le matériel, donc, ne doit pas s'éparpiller. On ne veut pas se perdre dans trop de détails. Donc, d'où cette importance d'avoir toujours recours à du concret et du visuel. Et on voit à travers les années, donc, les interventions qui ont été faites à travers, soit des sessions en individuel ou en groupe, beaucoup plus de succès lorsqu'on a un support visuel.
Mm-hmm. Isabelle, est-ce que leurs intérêts sexuels sont les mêmes? Je pense, par exemple, à, les jeunes adolescents, j'imagine, aiment peut-être regarder de la pornographie sur Internet parce que c'est accessible, ou encore, je pense à la masturbation. Est-ce que c'est la même chose chez les jeunes autistes?
Bien, à travers les recherches avec mes collègues aussi, on a remarqué en fait que l'intérêt sexuel des jeunes autistes ou même des adolescents est très similaire à l'intérêt des personnes qui sont neurotypiques ou de la population générale. Par contre, ils sont plus à risque de tomber dans les pièges liés à la sexualité. Vous nommiez un peu plus tôt la pornographie. Comme on sait maintenant que la pornographie est accessible et gratuite sur Internet, nos jeunes sont plus à risque de tomber dans ce piège-là parce qu'ils vont moins bien décoder les limites. Parce que si, par exemple, on entre sur un site de pornographie juvénile, donc on parle de jeunes adolescents ou préadolescents de 12-13 ans, lorsqu'on regarde un site comme ça, c'est pas inscrit d'emblée « ce site contient du matériel illégal ». Et nos jeunes, comme de façon générale, ils ont moins accès à de l'éducation et du support social. Ils peuvent regarder ces images-là avec une certaine naïveté, curiosité. La curiosité est tout à fait normale, bien sûr, mais de tomber dans le piège et peut-être même de façon très littérale sur les sites pornographiques, souvent on a un petit encart qui dit « cliquez ici pour en voir plus ». Par exemple. Et nos jeunes vont suivre les instructions. Ils peuvent finalement, par erreur ou curiosité, se mettre à télécharger des images, des fichiers qui sont bien sûr illégaux et ensuite se retrouver, excusez l'expression, mais les pieds dans les plats parce qu'ils n'ont pas pu décoder, en fait, cette ligne-là de l'interdit. Et ça, c'est tout un sujet d'entretien puis d'intervention qui me tient à cœur. C'est vraiment pour protéger et informer nos jeunes et leurs parents parce que d'interdire de regarder Internet et la porno, c'est pas une solution. Il faut expliquer aux parents et aux jeunes pourquoi c'est important. Quelles sont les limites? Par exemple, nous, on a des sessions sur la sexualité et la loi. Et je vous dirais, en fait, plus de 90 % des jeunes qui consultent avec nous n'étaient pas au courant que la pornographie juvénile était illégale. Parce qu'ils peuvent faire la distinction entre, par exemple, la porno infantile qui contient des images, des vidéos avec des jeunes enfants versus de la pornographie adulte. Mais tout ce qui est l'entre-deux, qui est parfois cette zone grise où on a des jeunes adolescents dénudés sur Internet, bien, les jeunes ne le savent pas et on s'est retrouvés en cours dernièrement pour expliquer aussi ce profil, la naïveté, le manque d'éducation et de support qui a pu mener certains jeunes à se retrouver les pieds dans les plats au plan légal. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour les parents, non pas d'interdire, mais d'expliquer cette réalité, mais aussi les dangers. Parce que si on apprend la sexualité et on s'éduque avec Internet, malheureusement, la plupart des sites sont pornographiques et non pas éducatifs. Et ça donne toute une vision de la sexualité qui est très méprisante, très graphique, très génitale. Et j'ajouterais aussi, sur Internet et la pornographie, il n'y a pas de notion de consentement qui est expliquée.
Oui, je voulais vous amener là, Isabelle Hainaut, parce qu'on parle de loi, de sexualité, la notion de consentement qui est peut-être pas toujours si simple pour les jeunes autistes.
Tout à fait. Et cette notion de consentement, je vous amène un petit détail un peu théorique, mais tout simple, mais tellement important, qui est la clé, en fait, de l'éducation au consentement. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon en psychologie la théorie de la pensée. C'est-à-dire cette capacité qu'ont les personnes neurotypiques à décoder les pensées et les intentions des autres. On sait que les personnes avec autisme ou syndrome d'Asperger ont souvent un délai dans l'acquisition de cette capacité à décoder les pensées et les intentions des autres. Donc, ils peuvent parfois projeter leurs propres désirs sur les autres ou mal décoder les pensées, les intentions des autres. Et c'est ce qui mène justement à cette notion de consentement. Donc, si moi, j'ai bien développé cette théorie de la pensée, j'ai par exemple, je suis adolescente et je tombe amoureuse de quelqu'un, mais je vais aller vérifier auprès de l'autre, soit dans son non-verbal ou directement en discutant avec l'autre personne si elle est aussi intéressée à moi. Par contre, chez les personnes avec autisme, il y a souvent soit ce décalage où le développement n'est pas encore à point. Donc, ils peuvent prendre pour acquis que si eux-mêmes, ils ont un intérêt ou un désir envers l'autre, ben l'autre aussi va avoir le même intérêt. Et c'est ce qui fait que cette notion de consentement est souvent soit mal comprise ou pas acquise du tout. Et donc, nous, on travaille à développer la théorie de la pensée à travers toutes sortes d'exercices pratiques, de mise en situation, de sketch, pour éventuellement, une fois qu'ils sont adolescents, leur enseigner le consentement dans un contexte affectif et sexuel. Et je reviens un petit peu à la pornographie, parce que c'est vraiment un fléau là,
bien
pour
sûr,
notre
oui,
jeune
pour tous
génération.
Les jeunes, hein? Oui, oui.
Et ce qui m'inquiète énormément, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est que sur les images, les scénarios qu'on voit sur Internet, il y a peu ou pas du tout de notion de consentement. Et même, j'ai des jeunes au plan clinique qui me rapportaient, Isabelle, c'est étrange parce que j'ai regardé une scène, par exemple, et la fille disait non, non, ça m'intéresse pas, mais plus le garçon la forçait, plus elle disait finalement qu'elle aimait ça. Imaginez toute la confusion oui. si on est autiste. Donc, non égale oui. Voyez, donc ils sont complètement sans repère. Et c'est pour ça que je me méfie énormément de la pornographie d'Internet, parce qu'en fait, il n'y a pas d'éducation au consentement et ça pourrait mener vers des situations à risque, surtout pour des jeunes comme les nôtres, avec autisme ou même avec une déficience intellectuelle parfois, qui pourraient prendre pour acquis que s'ils ont envie, l'autre personne devrait aussi avoir envie.
Et dans la pornographie, non seulement il n'y a pas la notion de consentement, mais il n'y a pas la notion non plus d'intimité, d'amour, ce désir-là d'être proche de quelqu'un qu'on aime. Or, et je vous cite Isabelle Hainaut, les personnes autistes en couple sont, il paraîtrait, très, très fidèles. La durée de leur couple est en moyenne plus longue que dans l'ensemble de la population. Donc, il est possible d'être en couple pour les gens autistes.
Tout à fait, tout à fait. La plupart des couples avec lesquels on travaille ont une forme d'autisme plus légère, ce qu'on peut appeler aussi syndrome d'Asperger. Ceux qui ont une forme d'autisme moyenne peuvent être en couple, c'est souvent le cas, avec aussi une autre personne qui a soit une forme d'autisme ou une déficience intellectuelle ou une condition associée. Et ces couples-là viennent consulter aussi pour apprendre à être ensemble, à partager ce que j'appelle du temps de qualité. Hein, dans notre jargon, c'est l'intimité, mais on veut le rendre plus concret pour eux. Et aussi à communiquer. Et c'est pour ça que le modèle Internet pornographique qui contient aucunement ces notions est souvent une nuisance, alors que les jeunes couples et même les couples plus âgés qui viennent nous consulter sont vraiment intéressés à être outillés et aussi à bien comprendre les enjeux, parce que si on a un profil autiste ou Asperger, bien sûr, ce sont des connaissances qui doivent être partagées dans le couple et on a plusieurs stratégies qui ont été élaborées pour aider les couples. D'ailleurs, petite anecdote, ce soir, avec mon équipe, on débute une série d'ateliers pour les couples quand un ou deux des partenaires sont atteints d'une forme d'autisme et on a établi un plan pour les 6 prochains mois. Donc, on va recevoir des couples en groupe. Donc, on a de plus en plus de gens qui viennent consulter et des femmes aussi qui sont atteintes soit d'une forme d'autisme ou du syndrome d'Asperger et qui viennent pour mieux vivre leur relation de couple et leur vie de famille.
C'est bien intéressant, Isabelle Hainaut, de voir tous les outils qui sont mis en place là, pour outiller davantage les jeunes autistes, les jeunes ou les moins jeunes autistes, là, bien sûr, à travers leur sexualité. Je donne l'adresse de votre clinique www.clinique-autisme-asperger-montréal.ca. Du côté de la clinique Autisme et Asperger Montréal. Isabelle Hainaut, vous êtes l'auteur du livre « Le syndrome d'Asperger et la sexualité de la puberté à l'âge adulte ». C'est publié du côté de Chenelière Éducation. Vous êtes psychologue, sexologue, clinicienne également et conférencière. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler et extrêmement éclairant.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette, @commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Docteur Didier Jutras-Souad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre du côté du département de psychiatrie du CHUM et également l'un des auteurs de cette étude qui tend à démontrer la corrélation entre toxicomanie et risque de comportement suicidaire. Pour commencer, docteur Jutras-Souad, il me semble que d'entrée de jeu, et vous me corrigez bien sûr là, si je me trompe, c'est pas si étonnant quand on pense à toxicomanie. Tout de suite, on peut penser à être plus susceptible d'être isolé, d'avoir des problèmes financiers, des comportements impulsifs, une santé mentale qui est plus fragile également. Donc, est-ce que ça vous a permis d'aller un petit peu plus loin entre cette relation toxicomanie et comportement suicidaire?
Tout à fait. Puis en fait, vous avez raison en fait quand vous dites dès le départ que c'est pas tellement surprenant qu'il y ait un lien entre la toxicomanie et les comportements suicidaires. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Il y a d'autres recherches qui avaient déjà montré par le passé. Lorsqu'on prend par exemple un échantillon de la population générale, le monsieur, madame, tout le monde, puis qu'on regarde parmi ces personnes-là qui consomment des substances, on s'aperçoit que les gens qui consomment des substances, et particulièrement ceux qui ont une dépendance aux substances, sont plus à risque d'avoir des comportements suicidaires. Par ailleurs, une des choses qu'on ne connaissait pas, ou très peu en fait, c'était parmi cette partie de la population qui consomme des substances et qui a des problèmes liés aux substances, lesquels sont le plus à risque vraiment d'avoir des comportements suicidaires. Donc, parmi ces personnes à risque, lesquelles ont encore un plus grand risque d'avoir des comportements suicidaires. Et c'est un peu à cette réponse-là qu'on a tenté cette question-là qu'on a tenté de répondre par l'étude qu'on vient de publier.
Oui. Et vous avez pu démontrer que les consommateurs de deux types de drogues bien spécifiques, c'est-à-dire cocaïne et amphétamine, étaient plus à risque.
Exactement. En fait, donc, dans cette étude-là qu'on a menée chez plus de 1200 personnes sur une période d'un peu plus de 6 ans, pratiquement 7 ans, on étudiait en fait la consommation de substances, et entre autres là, les différents profils de consommation de substances, les types de substances consommées, la fréquence, et on pouvait également mesurer en fait, et on demandait aux participants là, s'ils avaient ou pas eu des comportements suicidaires pendant cette période d'étude-là. Et effectivement, une des choses qu'on a pu noter, c'est qu'il semble vraiment y avoir une association spécifique entre les comportements suicidaires et la consommation de stimulants, soit les drogues, par exemple, la cocaïne et les amphétamines.
Et pourquoi, en particulier, ces deux, ben, en fait, des drogues qu'on dit stimulantes?
En fait, la question demeure entière. C'est-à-dire que cette étude-là nous a permis de mettre en évidence ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a une association entre les deux. Les consommateurs de cocaïne et d'amphétamine rapportaient plus de comportements suicidaires, mais on n'a pas, par cette étude-là, les données nécessaires pour dire exactement par quel mécanisme et pour quelle raison.
Est-on capable de répondre, et vous êtes médecin psychiatre, donc je suis bien à l'aise de vous poser cette question, les effets sur la santé mentale de ces types de drogues-là?
Exactement. Puis en fait, je pense que là, on a peut-être certains éléments de réponse. C'est-à-dire qu'on sait très, très bien, en fait, que la cocaïne et les amphétamines ont plusieurs effets sur la santé mentale, ne serait-ce que lorsque les gens consomment, on peut voir apparaître, évidemment, les symptômes classiques de l'intoxication à la cocaïne ou aux amphétamines, c'est-à-dire l'augmentation de l'énergie, le débit verbal qui augmente, l'augmentation de la capacité de socialiser. Mais on peut aussi voir des effets qui sont délétères. Par exemple, les gens qui vont développer des symptômes psychotiques, plus paranoïdes. Et une autre des choses qu'on voit, un autre phénomène qu'on observe avec les gens qui consomment des stimulants, c'est aussi l'apparition de symptômes sur le plan de l'humeur, soit des gens qui vont devenir hypomanes ou avec une augmentation de l'humeur, mais aussi très, très fréquemment des gens qui vont développer des syndromes dépressifs avec une diminution de l'humeur, ce qui évidemment peut mener à des symptômes suicidaires.
Est-ce que ce sont des drogues qui entraînent plus de dépendance que d'autres types?
En fait, on sait que la cocaïne, notamment, est une substance qui est particulièrement addictive. Ça se situe, je dirais, au haut de la liste dans les études qui sont disponibles, là, avec les opiacés, l'héroïne, par exemple, et même la nicotine, qui sont des substances très addictives. Donc oui, effectivement, la cocaïne, les stimulants sont des substances qui peuvent être source de dépendance très fréquemment.
Et docteur Judra Aswad, ça fait 7 ans que vous avez mis en place cette étude-là pour observer 1200 profils de toxicomanes. Est-ce que vous allez continuer ces recherches-là pour tenter d'arriver à d'autres conclusions peut-être plus précises?
Oui, tout à fait. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a mis en évidence certains phénomènes notamment celui qui concerne les stimulants, la cocaïne, les amphétamines et les risques suicidaires. Mais évidemment que nous, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est vraiment déterminer par quel mécanisme ces drogues-là peuvent être associées à la prise de risque, notamment, ou des problèmes de santé mentale. Et on a d'ailleurs certaines études qui vont débuter dans les prochains mois qui vont nous permettre, là, à mon avis, de répondre de façon beaucoup plus détaillée à toutes ces questions-là. Puis vous savez, à la toute fin, l'objectif, c'est évidemment de développer des nouvelles interventions, des nouvelles modalités de prévention, mais aussi de traitement pour ces personnes-là qui sont extrêmement souffrantes, là, les personnes qui ont une toxicomanie. Et ce qu'on espère, évidemment, c'est que ces études-là vont nous permettre d'aller de l'avant avec ce type de choses-là, là, d'études-là.
Oui, parce que c'est extrêmement préoccupant. On parle de 2 fois plus de probabilité, là, de mener à des comportements suicidaires. Justement, comment on peut développer des programmes d'intervention, de prévention? Parce que ce que je lisais également dans votre communiqué de presse, celui émis par le CHUM et l'UDM, c'est qu'il y aurait peut-être moins de pistes de cure pour les gens qui vivent avec un problème de dépendance à la cocaïne, par exemple.
Oui, puis ça, en fait, vous savez, c'est peut-être même une des hypothèses qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi il y a plus de tentatives de suicide chez ces personnes-là. C'est le fait que dans le traitement de la toxicomanie, il y a beaucoup des modèles de soins qui ont été développés pour des gens qui sont dépendants à d'autres substances. On parle, par exemple, des opiacés, l'héroïne ou l'alcool. Mais on a très peu d'interventions qui sont reconnues efficaces et de modèles de traitement pour traiter justement les gens qui sont dépendants à des substances comme la cocaïne et les amphétamines. Alors évidemment, ces patients-là, ces personnes-là qui souffrent de telles dépendances sont souvent pas en traitement, n'ont pas accès à des traitements efficaces, ce qui évidemment peut mener à de la détresse, au non-traitement de conditions qui ont besoin d'être traitées, et puis évidemment toutes sortes de complications comme les tentatives de suicide. Donc oui, il faut intervenir sur le suicide directement, mais je pense effectivement qu'il y a peut-être le simple fait de développer des traitements pour ces conditions-là, les troubles qui sont liés à l'utilisation de la cocaïne et aux amphétamines, pourraient aider à améliorer le sort de ces personnes-là et possiblement dans un certain nombre éviter qu'il y ait des tentatives de suicide.
Et en terminant, le grand public peut consulter l'étude à quel endroit?
En fait, elle est disponible sur Internet. L'étude a été en fait publiée dans la revue qui s'appelle Drug and Alcohol Dependence. Et donc, les gens peuvent avoir accès à cette étude-là en consultant le site web de cette revue-là.
Docteur Didier Judra Aswad, vous êtes médecin psychiatre au département de psychiatrie du CHUM, professeur au département de psychiatrie de l'UDM, chercheur et l'un des auteurs de cette étude. Merci beaucoup de votre participation.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était Marianne Paquette au micro. On est de retour demain, mais en rediffusion, je vous le rappelle, à 17h, également présent sur Twitter et Facebook. Et vous pouvez nous suivre au www.canalm.org. À demain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.